Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM. Alors ce soir, Money Time, saison 5, épisode 14, et oui, déjà avec ce soir, pour nous accompagner, nos chroniqueurs présents sur le plateau. Et on va commencer par la gauche avec toi, mon Fab, qui tu reviens, ça y est, guéri.
Oui, ça y est, guéri, merci, vacciné, guéri. Bonne soirée à tous, bonne émission. Et à tout à l'heure.
Et à côté de toi, c'est mon Charles. Comment tu vas bien ?
Salut Matt, salut à tous, salut à tous. Ça va très très bien. Ravi de vous retrouver. J'en profite pour passer un petit coucou à Jean-Luc qui nous écoute sans doute ce soir.
Et lui aussi, il est de retour après une semaine off. C'est Jean-Marc.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et je suis très content de vous retrouver ce soir.
Et on n'oublie pas en réal, en cabine, notre réal Maëlan. Salut Maëlan.
Salut à toutes et à tous.
Alors au programme ce soir, allez, on démarre avec les sports d'hiver, on revient sur le biathlon, le ski alpin, ce qui s'est passé ce week-end dans la foulée, la page football, et puis après on parle de hand, on parle de cyclocross, du Dakar, du tennis, enfin on parle de tout dans Money Time, mais pour l'instant c'est le sport d'hiver Maëlan, c'est Snowpark.
Le dixième titre de champion du monde à titre individuel pour Martin Fourcade. Champion, champion Fourcade.
Snowpark, l'actualité des sports d'hiver, tous les lundis de 19h à 20h dans Money Time.
Money Time.
Et dans Snowpark, on parle tout de suite de biathlon. Septième étape de la Coupe du Monde, c'était ce week-end à Ruhpolding. Je vous passe le micro, les garçons.
Oui, oui, comme tu dis, on était à Ruhpolding. Deuxième étape allemande après Oberhof, l'avant-dernière avant les Jeux Olympiques. Une étape assez décisive pour le classement général de la Coupe du Monde, du fait qu'il n'y avait pas les Norvégiens de... Chez les hommes, ils ont décidé de ne pas la faire. Donc pas de Jonas Bø, pas de Tarje Bø, pas de Christiansen, ni de Sturla Holm Laugrid.
Ils avaient envoyé les remplaçants.
Oui. Jonas Dahle, Bakken.
On se concentre sur les JO à mort.
Exactement.
Tu as tout compris, Fabrice.
Ouais, c'était l'impasse qu'on attendait. Moi, je l'attendais plutôt à Antols pour laisser, on va dire, un peu plus de temps pour se préparer. Mais non,
c'était... Il y a une histoire d'altitude, en fait.
Ok, voilà. Ok. Donc sans les Norvégiens, les Français avaient vraiment la voix royale.
Et surtout un homme, Quentin Fillon-Maillet, qui était alors là seul face à son destin. Et on peut dire qu'il a très bien répondu aux attentes dès le jeudi avec une superbe sprint avec une victoire.
Le leader de la Coupe du Monde, oui, qui a brillé en tous les cas. Ça avait commencé pour lui le jeudi avec cette victoire sur le sprint. Première pour Quentin Fillon-Maillet.
Sur un sprint. Donc c'était important. C'est le leader, c'est le maillot jaune. Il devait s'affirmer en l'absence des Norvégiens. Et il l'a montré parfaitement. 10 sur 10, des temps de ski très bons. Rien à dire. Sur un pâtir qui était assez facile avec peu de vent. Il a su s'imposer devant Benedikt Doll, l'Allemand qui fait une belle deuxième place pour lui, un podium. Pareil à 10 sur 10, et c'est Smolski, le Biélorusse, qui complète le podium. On est vraiment sur un sprint assez surprenant aussi au vu des résultats, parce qu'on a quand même Strolia 4e, le Lituanien, Sepala 5e, le Finlandais. Donc c'est, finalement, on a eu un sprint assez décousu. Et puis la bonne surprise côté français, c'est la 8e place d'Éric Perrault, le jeune français de 21 ans, 22, qui arrive sur ses 22 cette année. Un 10 sur 10 au tir. C'est vraiment intéressant pour lui et pour l'équipe de France pour l'avenir.
Pas de tir assez facile, tu l'as dit, déjà pas de vent, et puis parce qu'on arrive en descendant, donc les biathlètes sont pas...
On tente de faire redescendre le rythme cardiaque.
Exactement, c'est pour ça qu'on a des biathlètes qu'on n'attend pas dans le top 10, c'est peut-être ça. Aussi sur ce sprint.
Parce que c'est là que c'est dur, c'est quand il n'y a pas de vent et que t'es pas fatigué, et c'est là qu'il faut rester concentré en fait, c'est ça qui joue le plus.
Et ça, alors je sais plus qui disait ça, je crois que c'est peut-être Simon Détieux ou Emilien Jacquelin qui disait que c'était un pas de tir ou l'erreur, Antonin Guigona d'ailleurs qui disait que c'était un pas de tir où ça pardonnait pas, si tu faisais pas le 10 sur 10 et au minimum le 9, bah tu te faisais vite distancer au classement, on le voit bien, il y a beaucoup de 10 sur 10 et Antonin Guigona mais qui lui malheureusement a réalisé 3 fautes et du coup est loin à la fin et en dehors même
comme Jacquelin,
top 60. Emilien Jacquelin lui était malheureusement 3 fautes mais avec des temps de ski très honorables a pu finalement s'en sortir avec une 53e place, donc avec 4 fautes même, hein. C'était vraiment une mauvaise...
Il n'est pas passé loin de la correctionnelle, ouais. Parce qu'il aurait pu ne pas participer à la poursuite, hein, s'il n'était pas rentré dans le top 60.
Ça aurait été un gros coup dur, lui qui joue le classement général, deuxième avant cette manche de Ruhpolding.
Il avait commencé déjà à donner des signes de faiblesse le week-end dernier, c'était peut-être l'étape de trop, il aurait dû faire peut-être comme les Norvégiens et rester à la maison.
C'est possible. Après, ouais. On verra. Moi, je vois surtout que c'est Quentin Fillon-Maillet qui est plus que jamais face à son destin et qui pourrait être, ce qui était logique, le vrai remplaçant de Martin Fourcade à la conquête du gros globe.
Oui, puisque sur la poursuite, évidemment, il fait la passe de 2.
Exactement.
Première fois aussi qui nous fait le doublé.
C'est ça, il partait en tête, il a super bien... il a un peu mal commencé avec une faute, ce qui a permis notamment à Bénédicte Doll de le passer. Mais ensuite, c'est quasiment un sans faute sur le reste et tout. Je crois qu'il a refait qu'une faute sur le debout, sur le dernier tir. Et il est vraiment impressionnant, une puissance sur les skis, très élégant.
Invaincu en poursuite depuis 4 courses.
4 victoires, 4 poursuites, 4 victoires. Vraiment, Quentin Fillon-Maillet,
taille patron,
comme dit, ouais, c'est ça.
On voit quand même pas trop comment le globe d'or va lui échapper. Quoi.
Le gros globe de cristal.
Parce que là, à part une blessure,
ça peut arriver.
C'est un garçon sérieux.
Il est bien parti, il a marqué les points d'avance, il a une belle avance.
Pratiquement 100 points d'avance.
Il y a 8 courses individuelles encore après les JO en mars, et donc encore 2, ça fait 10. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points, mais bon, lui, il est tout le temps.
Il est toujours placé, de toute façon.
Il est présent, voilà. Et je pense que à ce moment-là de la compétition, on est obligé de se dire que s'il est là, c'est qu'il est fort, c'est qu'il est présent et qu'il n'y a aucune raison qu'il se relâche. On l'a vu sur les dernières années, il est toujours présent dans les trois, à chaque fois dans les trois premiers, sur le podium à la fin. Donc c'est quelqu'un qui est très régulier et là, franchement, qui s'affirme enfin en tant que patron, en tant que
patron de la discipline,
patron de l'équipe de France.
On le saura quand il aura assuré le Pro Globe.
Il est vraiment bon cette année.
Cette poursuite, Simon Détieux qui fait un beau rapproché. Hein, il partait 9e, finalement 4e au pied du podium.
Derrière Loginov et Smolski.
Smolski, alors futur cadre de la discipline. Enfin, il n'est pas tout jeune, mais en tous les cas, depuis le début de la saison, il est présent à chaque course.
C'est ça, mais il a 25 ans, donc il n'est pas si vieux que ça quand même. Il a encore de l'avenir devant lui. C'est vrai que c'est un double podium, c'est intéressant pour lui. On voyait les Biélorusses chez les femmes très bien performer avec l'arrivée, l'émergence de notamment de Zenara Limbekava, Anna Sola, comme tu le dis, et tout, Krushinkina. Il y avait vraiment côté féminin une base solide chez les Biélorusses, hein, mais alors que chez les hommes, c'était plus compliqué. On voyait pas grand monde. Et là, Smolski, il se montre et c'est vraiment bien pour le sport biathlon biélorusse.
Perrault qui confirme pas sur la poursuite, Jean-Marc, et après sa belle 8e place, il se craque au tir.
Après il va falloir apprendre. Hein. C'est déjà pas mal d'être là.
Il est très jeune, première saison.
4 fautes. Bon, voilà. On sent qu'il faut qu'il s'améliore sur les skis, mais c'est déjà une bonne performance d'avoir été à la poursuite avec en plus un top 10 sur le sprint. C'est déjà très très bien.
Et Fabien Claude qui alterne le bon et le moins bon. Il manque un peu de régularité, surtout sur le pas de tir.
C'est ça.
On l'a vu en relais d'ailleurs la veille. Hein.
C'est ça. Et donc Fabien Claude fait encore un petit peu de difficulté, même s'il fait une quand même bonne 12e place à la fin sur cette poursuite. Ça reste encore des performances en dents de scie. Il va falloir être un petit peu plus régulier s'il veut vraiment devenir être un cadre de l'équipe de France et pourquoi pas viser plus régulièrement des podiums ou des cérémonies des fleurs. C'est ça ce qui pour l'instant lui fait défaut.
Et donc, chez les femmes
au général, donc seul Samuelsson peu embêté Jean-Marc Quentin Fillon-Maillet, hein, puisque les autres, avec leur impasse, sont maintenant trop loin.
Hein. Ouais, c'est ça.
C'est clair.
Tu l'as dit.
On les passe aux femmes. Allez Jean-Marc, les femmes.
Ben, les femmes, moi ce que je retiens, c'est la superbe performance en relais.
Ouais, la victoire.
La victoire du relais français.
Exactement.
Avec dans la compo Anaïs Chevalier.
Chloé Chevalier.
Et puis
Justine Frézaz et Julia Simon qui finissent.
Exactement.
Alors est-ce que ça sera le relais olympique?
Non. Anaïs Bescon remplacera Chloé Chevalier, je pense. Anaïs Bescon qui fait en plus une belle performance sur le poursuite.
Pas contente de ne pas avoir fait partie du relais hein, qui pourrait.
Ouais, c'est normal, mais enfin bon, c'était voulu de la mettre en pause. Hein, c'était pour son bien.
Parce qu'elle est toute jeune et je pense que voilà.
Comme elle est compétitrice, elle est un peu vexée. Enfin, le.
Mais bon
son côté combattante qui fait que.
Et je pense qu'elle l'a bien montré sur la poursuite le lendemain. Et c'est vraiment une belle performance d'équipe de France, sans forcément le gros relais des Norvégiennes ni forcément des Suédoises, même si les Suédoises font une belle deuxième place. On a vu un relais français, zéro tour de pénalité, 4 pioches, très propre. C'est vraiment ce qu'il faut. Avec seulement Anaïs Chevalier-Boucher qui fait, je crois, 2 erreurs.
Alors oui, tu as deux pioches pour Anaïs Chevalier-Boucher, une pour Julia Simon, une pour Justine.
Donc c'est Chloé Chevalier qui fait 10 sur 10, donc c'est vraiment impressionnant. Elle est toujours propre, hein. elle a fait 8 relais et 3 fois 10 sur 10. Donc elle est performante. On a un relais qui performe, ça s'est vu, c'était une victoire qu'on attendait et ça a de belles perspectives d'avenir pour les Jeux Olympiques.
Ouais, une médaille.
Une petite pièce sur une médaille.
Largement. Sinon, sur les épreuves individuelles, on a eu deux filles, Elvira Berg et Maria Holte Roysland.
Disons que chez les hommes, il y a Quentin Fillon-Maillet, chez les femmes, il y a aujourd'hui, cette année, il y a Marthe Osborne-Roysland, encore une fois, hyper performante. Elle fait encore une fois une victoire sur la poursuite en étant encore sur le podium sur le sprint, une deuxième place. Elle est vraiment impressionnante et Elvira Berg qui lui emboîte le pas pratiquement à chaque fois sont les deux aujourd'hui grandes leaders de cette Coupe du Monde de biathlon cette année.
Ouais, donc un week-end de super pour Anaïs Bescon, 7e du sprint Jean-Marc et 4e de la poursuite.
Ouais.
C'est la meilleure.
Elle sera là.
C'est la meilleure chez les femmes côté française. Elle est 7e au classement général.
Une de ses plus belles saisons. Hein.
Une très bonne saison pour Anaïs Bescon. Alors qu'on ne s'attendait pas forcément à elle. On voyait plus peut-être une Anaïs Chevalier vraiment revenir.
Et elle sera motivée pour aller chercher une médaille olympique.
J'en connais quelques-uns autour de la table qui voulaient la mettre en fret.
Exactement.
Ouais, après les JO de Pékin, Jean-Marc.
Je pense que ça viendra après.
Ça sera après, ne t'en fais pas.
Mais on espère pour elle qu'elle peut aller chercher une petite médaille individuelle. Elle a le niveau et on l'a vu, elle a fait 2 podiums cette année.
Championne olympique en relais et puis pourquoi pas une médaille, vice-championne du monde du sprint.
Sur la poursuite.
Sur le sprint. La master, tout l'individuel. Enfin, de toute façon, tout ce qui est une médaille, on acceptera.
Allez, ça continue le biathlon. C'est à partir de jeudi. On est à Antols, Anterselva, en Italie. Donc, pour.
La dernière étape avant les Jeux.
C'est ça. Allez, on passe à l'Alpin. Et les week-ends se suivent et se ressemblent pour Marco Odermatt.
Et Marco Odermatt qui continue de performer avec une nouvelle.
On était à Wengen.
Une des plus belles pistes du monde avec une déco sur le Cervin qui est absolument magique.
Le petit pont avec le train.
Exactement. Le petit chalet en bas à droite.
Et le week-end avait commencé avec le Super G. Et qui dit Super G dit Marco Odermatt, 100 points dans la besace.
Exactement. Encore une fois, il a montré qu'il était le plus fort. Il s'impose devant Kiel 2 et Mathias Meyer. Cette année, Odermatt est imprenable quasiment sur chaque course qu'il fait. Chaque fois pratiquement sur le podium, c'est vraiment cette année la superstar du ski à domicile en plus. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment
Marco Odermatt. Parce que sur les deux descentes du week-end, il fait deuxième et quatrième.
Donc il est encore présent.
Il prend 230 points dans son week-end. Il laisse que des miettes à ses adversaires. Il y avait un slalom, c'est pour Bratten. La grosse côte, 29e de la première manche. Le Norvégien qui s'impose du jamais vu.
Quand j'ai vu le résultat, on est vraiment impressionnant. Il n'était pas du tout favori. Il y avait vraiment des gros leaders normalement qui devaient s'imposer. Et puis c'est surtout Henrik Kristoffersen qui fait une grosse faute sur deuxième manche et qui du coup lui permet pas d'aller chercher la victoire. Offre la victoire. C'est impressionnant de voir finalement un skieur partir si loin finalement deuxième manche et arriver à gagner, et ben on est content pour lui parce que franchement, je pense que ça peut-être ça se réalisera
content
pas souvent.
Pour lui, un peu déçu pour Clément Noël et Alexis Pinturault, 8 et 9.
8 et 9 malheureusement, Clément Noël qui pourtant dont c'est la spécialité, qui avait gagné le premier slalom de la saison, on s'attendait à mieux, surtout qu'il avait raté ses deux derniers slaloms où il n'avait pas fini ou fini très loin. On s'attendait à mieux de Clément Noël et Alexis Pinturault qui continue sur une saison un peu plus compliquée, avec du mal à réellement performer. C'est plus compliqué pour lui. On espère que les deux pourront faire quelque chose, seront plus en forme pour les Jeux Olympiques.
C'est ça. Pour l'objectif pour Pintu, ça va être la médaille olympique, enfin même l'or olympique.
Alors, il la veut, je pense.
Et puis je pense qu'il pourra raccrocher les skis. Chez les femmes, c'était aussi des épreuves de vitesse à Zochenzi. La descente pour Gut, le géant pour Brigone. J'ai envie de te dire, là aussi, les week-ends se suivent et se ressemblent.
C'est ça. La
vitesse.
La seule surprise, c'est malheureusement Sofia Gioja qui s'est loupée sur le super G. Elle est tombée. Sur la descente, elle est tombée et elle n'a pas été classée. Elle finit 19e du super G. Malheureusement, elle qui est une des grosses favorites sur les épreuves de vitesse, notamment du coup la descente, perd du terrain et du coup cède du terrain par rapport à Chiffrine et Vlova qui sont plus des skieuses techniques, même si Chiffrine fait quand même des épreuves de vitesse. Et je pense laisse à ce moment-là filer peut-être ces deux skieuses pour aller viser le gros globe de cristal.
Très bien, et puis bonne nouvelle en slopestyle, la victoire de Tesle 2 à Font-Romeu, de bon augure avant les JO pour la freestyleuse française. Voilà, allez, on a terminé, Maëlan, cette page sport d'hiver, on ouvre la page football, c'est le Prune Football Club.
Money time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on démarre cette page foot avec de la Ligue 1 et le premier match du week-end, c'était le déplacement des Canaries à Nice à l'Allianz Riviera. Fabrice, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette rencontre ?
C'est une défaite, mais bon, après 5 matchs sans défaite, avec pas mal d'absents.
Face au Dauphin,
chez le deuxième.
Un Dauphin qui devient le Dauphin du coup, mais on n'y arrive pas avec les top 5, quoi. On n'arrive pas à battre un top 5, et pour l'instant, ça devient inquiétant. On est à notre place, je pense, le 10e, avec 29 points. L'année dernière, on était 15e avec 18 points, un truc comme ça. Donc, c'est pas trop mal. Donc, les Aiglons, eux, par contre, confortent leur deuxième place.
Ouais, donc, sur l'agenda dimanche, le derby.
Lorient.
C'est Nantes qui reçoit Lorient 15h à la Beaujoire.
Et on peut enchaîner d'ailleurs sur Lorient, qui sont au plus mal.
Match nul.
Face à Angers, qui restait sur deux défaites, Angers. Et Lorient qui n'a pris que 2 points en 5 matchs.
Angers qui était réduit à 10 depuis le quart d'heure de jeu.
Ouais. Et on est toujours Lorient relégable.
Et qui par conséquent du coup, n'avance pas et reste 18e, donc barragiste, mais seulement égalité avec Bordeaux et Troyes qui sont respectivement 19e et 17e.
Là, tout le monde est à 17 points. Quoi.
C'est ça, les 3 clubs à 17 points. Il y a clairement 18 et Metz 19 qui vont, je pense, que ces 5 clubs vont se jouer les places de premier relégable. Et barragiste, Saint-Etienne, eux, sont vraiment loin derrière, 12e, avec 12 points.
Je te coupe, mais je préfère être dans une situation. Parce que l'année dernière, on était dans cette situation-là. Et là, maintenant, on est quand même.
Ah oui, maintenant, Nantes.
Ça devrait aller.
Ah ben, avec Nantes, là, on est bien. On est solidement 9e de ce classement, même si Lille et Lyon et Angers ont un match de moins, ils peuvent nous passer devant. Mais on est solidement ancré dans ce ventre mou, dans ce milieu de championnat. Pas si loin des places un petit peu européennes, mais n'y croyons pas trop. Hein, nous ne sommes pas de faux espoirs. Nous n'avons pas le niveau. Allons pas nous faire humilier là-bas. C'est déjà bien si on arrive à se maintenir et à rester dans le ventre mou après la saison passée qu'on a.
Très bien.
Et cette année, je remarque que les 3 promus ont du mal. D'habitude, il y en a un
qui sort du lot,
qui surnage. Ouais. Mais là, 3. Lorient et Clermont, ça se tient en un point.
Juste 3 Clermont, parce que Lorient était monté la saison précédente.
Pardon.
C'est un promu de. C'est un sophomore en termes de promu.
Alors, faut faire un grand coup. Bravo à nos voisins rennais.
Oui,
qui alors là, bah, survolté le match.
Est-ce que face à Bordeaux, on peut dire que c'est vraiment compliqué?
Ils ont montré que le Bordeaux de cette année était vraiment de la piquette, permettez-moi ce jeu de mots. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est de voir des joueurs comme...
C'est de la villageoise niveau.
Ah bah minimum. De voir des joueurs comme Martin Terry qui sont à 10 buts, Laborde 10 buts, donc on beaucoup
Truffert,
de buteurs.
Truffert, le remplaçant qui marque.
Excellent Truffert.
Le défenseur.
L'arrière-gauche qui est encore très bon, Guirassy qui met un doublé, alors qu'il s'était un peu loupé. Hein.
Il se faisait hacher depuis sa performance ratée en Coupe de France contre Nancy, et là du coup il rentre, il met 2 buts, donc très bien.
Les Rennais jouent 7 matchs et qui comptent du coup.
Ouais, surtout que les Rennais
essayent de revenir sur le triathlon.
3 défaites d'affilée, donc c'était compliqué.
Ouais, fallait, ouais,
non, et il fallait ça, revenir absolument. Et Bordeaux, et ben là, ils arrivent.
Bordeaux, c'était le bon adversaire pour se relancer.
Hein. Ils y arrivent avec deuxième meilleure attaque du championnat. Avec exactement. 40 buts, tu dirais le PSG à 42 buts.
Ils sont vraiment bons cette année. Le coup un petit peu qui fait du bien, c'est pour les Lyonnais, la victoire à 3-1-0 sur un penalty de Moussa Dembélé.
Alors, si tu avait permets bien. De dire que j'ai jamais vu un penalty aussi fantasque et tout qu'encore une fois, alors, si Lyon a été avantagé par la
on a vu un deuxième.
Mais bon, ça
Strasbourg,
c'est
Montpellier.
Le Strasbourg, il est moyen.
Pas mal non plus.
Mais alors, ce penalty obtenu mais par Lyon, voilà, il touche du coude certes, mais le ballon lui arrive dans le dos. Enfin, c'est juste un peu improbable. Quoi.
Ah Gagné, mais pour moi, il y a pas. Enfin, techniquement, c'est le penalty est très sévère, mais au moment où il le siffle. Lavard ne peut pas dire, bah non.
Non, c'est qu'il n'a pas été touché par le coude. Non, on est bien d'accord, mais.
Et c'est malheureusement, le VAR ne peut pas intervenir sur ce genre de réaction pour dire, bah non, effectivement, non, il n'y a pas d'erreur manifeste de l'arbitre, parce qu'effectivement, bah il y a une main. Mais effectivement, normalement, il n'aurait pas dû la siffler, même si Lyon aurait dû légitimement marquer d'autres buts et logiquement.
Je dis pas le contraire. Mais
c'est vrai qu'on a vu pas mal d'erreurs d'arbitrage encore cette semaine.
Oui, mais font bon les arbitres.
Dans tous les championnats.
C'est pas Mbappé qui dirait le contraire.
Oui,
on va éviter, parce que là, je pense que je pourrais lui faire pas le procès.
N'ouvrons pas le procès, laissons ça à la justice.
Strasbourg qui continue sa marche en avant.
Hein. Exactement, Julien Stéphan qui continue de faire du très bon boulot, malgré l'ouverture du score de Montpellier de Florent Mollet. Le carton rouge de Wai les a bien aidés pour Strasbourg qui était à 11 contre 10. Waris Thomasson, l'ancien Nantais, et Kevin Gamero ont marqué les 3 buts strasbourgeois qui continuent leur folle remontée au classement pour actuellement être 7e, avec en plus un match en moins à jouer par rapport à Lens, Monaco et Rennes, et donc peuvent potentiellement passer à la 4e place.
Ouais. Et nos Stéphanois, les Verts, qui s'enfoncent de plus en plus, comme tu disais tout à l'heure, Charles, avec 12 points seulement, c'est... voilà, c'est
face à Lens.
2 victoires en 20 matchs, c'est pas simple du tout. Et il faut savoir que Saint-Etienne est dernier, avec 18 marqués pour 42 encaissés. Et Paris est premier, avec 42 buts marqués pour 18 buts encaissés.
C'est marrant.
C'est rigolo.
Donc, mais ça va être compliqué quand même pour les Stéphanois, parce qu'ils sont à 5 points de l'autre relégable, mais du premier relégable, 3 à 17 points, donc ça va être compliqué pour eux.
Ouais, ça va être très très compliqué, et à mon avis, Saint-Etienne...
Pas de miracle Duprin.
Ça peut arriver, on verra bien. Après, ils ont encore plein de joueurs qui doivent arriver.
Ils ont un match en retard, je crois.
5 points, c'est pas la mer à boire.
C'est pas la mer à boire. Après, il faut
enchaîner.
Il faut une dynamique.
Ils ont un match en moins face à Bordeaux, mais pas face à ni Lorient, ni Troyes, ni Clermont. Ils sont même de match. Donc, c'est pas simple pour les Stéphanois qu'on risque de voir peut-être en Ligue 2 BKT l'année prochaine. Ça tombe bien, le logo de BKT est vert.
Et tu parlais de Clermont qui ont pris une fessée à Monaco.
Et oui,
4-0,
pareil,
la première victoire de Philippe Clément.
C'est ça, la première victoire, le nouvel entraîneur de Monaco qui remplace Niko Kovac depuis 2-3 matchs. C'est Sofiane Diop, le doublé de Ben Yedder et Caio Henrique qui ont marqué. Les Monégasques qui se font du bien, ils remontent à la 5e place au classement, aux portes des places européennes, notamment pour la Ligue Europa et la Ligue des Champions. Monaco, c'est logique, c'est le standing Ligue des Champions, ils doivent revenir dans le haut du tableau après une première partie de saison en dents de scie.
Et malgré une traînée de domination, l'OM qui partage les points
au Vélodrome. Domination, Lille, les Dogs gagnaient 1-0 quand même.
Mené à la pause.
Et quand Benjamin André, c'est après un rouge à 32e, voilà, ils sont revenus et
Ah, il laisse filer deux points hein, quand même.
C'est ça, et pourtant, Marseille a quand même la meilleure défense du championnat pour l'instant, et que 16 buts seulement de
l'encaisser. Vraiment une bonne défense. Ouais. Et, ça marche plutôt bien Marseille en et ce moment. Sachant qu'on sait qu'ils ont ils sont sur des pistes, notamment Nicolas Tagliafico, l'arrière gauche argentin de l'Ajax. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met très bien en place du côté de Marseille grâce à Pablo Longoria. On peut les féliciter. Ça change enfin de l'ère des d'avant, c'est mieux géré. L'arrivée aussi de Cédric Bakambou, l'attaquant camerounais, si je crois bien, qui vient de Chine, encore un buteur performant. Bah, les Marseillais peuvent vraiment viser une belle place en Ligue des Champions l'année prochaine, même s'ils se feront peut-être encore une fois humilier. Mais ça, seul l'avenir nous le dira.
Sampaoli était très énervé quand même après le match. Oui, ils ont quand même joué une heure, un peu plus d'une heure, même à 11h10.
Oui, ils ont encore des trous d'air, mais.
Et voilà. C'est vrai que Lille est revenu avec son 11 de départ, qui n'avait pas été le cas contre Lens. Ils avaient 11-4 Covid. Là, ils sont bien revenus. Donc maintenant, leur équipe au complet, ils peuvent revenir très très vite.
En plus, il y a le retour de Hatem Ben Arfa. Alors là, Lille, là, je peux te dire, vise le titre.
Et on en parle. C'est dans les tablettes.
Allez, il nous manque un résultat, c'est le derby des pâtissiers, vous l'avez compris.
Je voulais Paris-Brest, évidemment.
Ah, il est bon celui-là.
Il est pas mal, on l'avait trouvé. Oui, avec 2-0,
toujours
avec Mbappé.
Pour les Parisiens.
Un match assez tendu quand même. Moi, les Brestois, ils m'ont plu. Ils ont été durs par contre. Ils ont été très durs physiquement, mais ils m'ont plu. Et puis voilà, la petite Annick Roche entre Mbappé et Magnetti qui ne s'est pas très bien passée. Puis voilà, ça c'est un grand match de Marquinhos derrière. Très grand match Marquinhos,
quand on l'a vu déjà face à Lyon au dernier match, il est vraiment Marquinhos aujourd'hui en train de montrer que c'est un des trois meilleurs défenseurs centrales du monde pour moi, avec Van Dijk et Ruben Dias. C'est vraiment du très très solide. Aujourd'hui, si le PSG en est là, que ça soit en championnat ou en Ligue des Champions, c'est grâce à Marquinhos.
Ah oui, pour moi aussi. Bon, après maintenant, quand vous voyez le match, est-ce qu'il n'y a pas un égo chez les Parisiens en disant, voilà, arrêtez de nous toucher, vous faites des fautes sur nous, on est dans un championnat
bien
de football.
Bien sûr qu'il y a ça, Fabrice, tu le sais bien, et en plus, c'est aidé par les journalistes de grands quotidiens comme l'équipe et RMC, comme d'habitude, qui ne peuvent pas s'empêcher de leur souffler dans le poireau, ça me désespère.
Parce que là, moi j'ai vu le match.
Ça te gonfle.
Les fautes, elles ne sont pas non plus méchantes.
Mais non, il n'y a rien. Et en plus, le truc, c'est que Mbappé, c'est lui qui fait la faute. Alors,
oui, tout à fait.
On se dit un truc, apparemment, il y a encore eu un bruit. Mais allez au bout des choses, mettez des micros sur tous les arbitres et à chaque propos déplacé,
oui, soi-disant
une amende individuelle
axée
sur le salaire, un pourcentage du salaire. Et quand ils en ont marre de payer des millions d'amendes, peut-être qu'ils apprendront à parler correctement.
Je pense que de toute façon, il faut prendre l'exemple sur les sports américains où
exactement.
Tu peux pas parler à l'arbitre n'importe comment.
Mais le moindre mot que tu dis à l'arbitre ou à ton adversaire,
c'est faute technique, c'est machin.
Pas moins, et puis.
Si c'est une insulte, ça peut être une amende. Donc,
systématiquement, tu prends une amende et elle n'est pas inférieure à 10 000 euros.
Aujourd'hui, les joueurs de foot ne savent pas $10,000. Ne savent pas parler. C'est incroyable d'être aussi peu.
Vu qu'ils ne veulent pas parler. Mais ce qui est énervant, c'est qu'ils se sont défendus en plus.
Mais oui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Jean-Michel Aulas qui a milité pour ça. Il y a maintenant, je crois que ceux qui gèrent les arbitres, le comité un peu des arbitres et tout, militent aussi un peu, je trouve, pour le port de micro. Ça se fait partout, sauf bizarrement dans le foot, et on se demande encore pourquoi ça se passe mal avec les arbitres.
On sait très bien, parce que les joueurs racontent n'importe quoi, se comportent, mais comme des fumiers.
Comme des charognards, des
exactement.
Des vieux chacals.
Donc et voilà pourquoi. Mais
il n'y a pas le son en retour.
On se souvient de Zlatan Ibrahimovic.
Allez, on retourne sur le terrain. Ouais, on ferme la page Ligue 1 à l'étranger. Allez, on va pas beaucoup développer, mais il y avait un choc City Chelsea, Charles.
C'est ça. C'était le gros choc du week-end en Angleterre. Savoir si City allait assommer la course au titre ou si Chelsea allait garder un infime espoir. Kevin De Bruyne a tout...
70e, le mentor qui met tout le monde d'accord. 11 points d'avance, on peut dire que le titre ne devrait pas échapper cette année encore.
Cette année, ça sent pas le roussi avec Kevin De Bruyne.
En Allemagne, carton du Barça avec encore un doublé de Lewandowski.
Triplé.
Avec un but magnifique de Corentin Tolisso, l'ancien Lyonnais, on peut
pour le Français. Bon, il va finir par le choper, ce ballon d'or. Hein. Il a 21 buts en 18 matchs en championnat.
On va pas énerver Jean-Marc sur le soulier de diamant,
voilà.
Éternel.
Le problème, c'est que cette année, il y a la Coupe du Monde. Après, je sais pas si le vote se fera avec la Pologne, c'est compliqué.
Il est quand même meilleur buteur d'Europe pour l'instant.
Ah oui, non mais de toute façon,
avec 23 buts, il y a quand même une sacrée différence.
Mais on en reparlera plus tard du Ballon d'Or.
Encore un résultat et le carton du Dauphin Dortmund 5-1 sur Fribourg avec doublé d'un revenant. Oui, il retrouve le terrain depuis pas longtemps. C'est Erling Haaland.
Exactement, Erling Haaland qui nous en fait encore une massacrée performance, un doublé.
15 buts pour lui déjà.
Voilà, c'est de toute façon c'est un des meilleurs buteurs aujourd'hui du monde. Et même si il est un petit peu dans la tourmente entre guillemets parce que le Borussia lui met la pression pour son avenir, ça se passe toujours aussi efficace et vraiment ça serait pas étonnant qu'il rejoigne un très très grand club cet été.
Le Paris Saint-Germain, on l'espère. En Italie, le choc Atalanta-Inter qui accouche d'une souris 0-0.
0-0, un vieux 0-0 des familles, comme on dit. C'est un match qui arrange un petit peu l'AC Milan qui, du coup,
joue en ce moment
et mène 1-0 face à la Spezia, qui leur permet de passer provisoirement devant avant le match de l'Inter. Les deux clubs de Milan commencent un petit peu à s'échapper au classement.
Et la Juve qui se rapproche.
Et la Juve qui fait un petit peu son petit bonhomme de chemin.
2-0 face à Ludine qui revient.
Qui reprennent un peu de terrain. Encore Dybala qui fait le travail. McKenny qui met le deuxième. La Juventus qui, après un début de saison très très compliqué, arrive à revenir petit à petit. Ils sont petit bonhomme de chemin. La Juventus qui vraiment a besoin de
7e actuellement.
Cinquième à seulement un point de l'Atalanta, 4e, à 5 points du Napoli, 3e. Ça va encore se jouer jusqu'à la fin du championnat, mais la Juventus peut finalement espérer, je pense, une place en Ligue des Champions.
Jean-Marc, en Espagne, la Supercoupe pour le Real.
Eh oui, encore.
Je ne l'ai pas vu. J'avoue que j'avais autre chose à faire que de regarder.
28e trophée.
Elle a duré longtemps, cette Supercoupe. Ça avait commencé mardi, mercredi, les demi, et puis finale hier. Ça avait donc démarré, Fabrice, avec
face au Barça,
ouais.
Et victoire du Real, des Merengues, 3-2. Et là,
En prolongation.
Et la victoire sur l'Atlético Bilbao.
2-0, Modric, Benzema, quoi, pour un trophée de plus. Hein,
28e trophée, dont 20 avec le Real. C'est le joueur le plus titré.
Ouais, il va nous faire oublier Copa, Jean-Marc, Benzema au Real, je sais que...
C'est possible. Mais pour moi, en fait, ces trophées n'avaient aucun intérêt. Il y a longtemps, tout le monde s'en foutait en Espagne. Là, parce que l'équipe a récupéré les droits, on va les regarder.
C'est toujours sympa de voir des gros matchs quand même.
Moi,
ouais,
pas
mais c'est
plus.
Plus un gros match, Real Barça, Charles.
Oh, là. Si, arrête. Oh,
non.
Tu fais
bon, non.
Allez. Oh, non. Mais l'autre match espagnol qui était très intéressant et mouvementé, c'était le Betis face au Séville.
Alors, non, je voudrais pas en parler, s'il te plaît.
S'il te plaît.
Le match a été arrêté puisqu'il y a eu un jet d'un bâton. Non, mais ce que j'ai aimé, c'est que c'était commenté par l'équipe. Dave Apadou a fait sa grande effarouchée quand il a vu qu'il y avait un truc. Il dit, ah non, le match va reprendre. Non, il va pas reprendre. C'est comme en France. Alors, t'as critiqué le foot français, c'est la même chose en Espagne. Donc, t'es gentil de te taire, comme tes collègues de l'équipe de Greg. Donc voilà, en gros, c'est ça.
Heureusement que tu voulais pas en parler, en fait.
Mais non, en fait, ça me saoule.
Allez, on passe à la CAN. On passe à la CAN, c'est au Cameroun.
Et le grand coup de massue
pour l'Algérie.
L'Algérie battue 1-0.
Logique, comme tous
les équipes.
Je vais juste vous apprendre un truc, les gars. Les équipes d'Afrique du Nord ne gagnent jamais en Afrique équatoriale. Jamais une CAN a été gagnée par des équipes Égypte, Maroc et tout ça en Afrique équatoriale. Donc ça sera encore le cas. Je vous le dis cash, ça sera le Cameroun qui va gagner.
Ou le Nigeria. Parce que le Nigeria
L'Algérie, après leur 0-0 contre la Sierra Leone, où le gardien a fait un match exceptionnel, il a été élu homme du match. La Sierra Leone a fait un peu les affaires de l'Algérie aussi en faisant match nul.
Bon, l'Algérie peut s'en sortir en battant la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire, c'est parce que la Sierra Leone a fait match nul contre la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire a battu la Sierra Leone, ils étaient qualifiés, ça aurait été compliqué.
Absolument. Bon, allez, on fera le point sur la CAN la semaine prochaine. On a déjà assez parlé de football, Maëlan. On va parler de nos clubs nantais. C'est le score en stock, bien sûr.
Money time. Score en stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en stock. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on commence avec le hand, les Neptunes, bien sûr, en Butagaz Ligue Énergie. C'était la réception de Dijon, mercredi, Jean-Marc, tu y étais.
Exactement, et un match où le scénario, alors les Nantaises ont commencé par mener dans ce match, et puis 20e minute, elles se font rejoindre, 11 partout, un peu surprenant, au vu de la maîtrise montrée en début de partie. Et puis, quand même, là, Nantes va quand même montrer sa supériorité, puisqu'en deuxième, ils auront jusqu'à 6 buts d'avance. Et ils vont bien gérer la fin de match. Ils l'emportent 28-25. Donc sur le coup, il y avait un point d'écart avec Dijon. Donc là, au classement, on creuse l'écart. À noter la belle performance de la gardienne Adriana Placek avec 19 arrêts sur 44 tirs.
Ouais, après la réception de Bitty Game, elle a brillé. C'est deux matchs de rang. Hein,
c'est ça, elle est là. Et puis Nathalie Hagman, hein, qui t'avait impressionné, 11 buts. Donc, belle perf. On est content qu'Orlana Honda ait fait une meilleure prestation que contre Bitigam. 5 buts. On l'a retrouvé un petit peu et d'ailleurs, on va l'écouter.
J'ai du mal à créer l'écart, mais on sent quand même qu'on est en progression parce que au final, les matchs s'accumulent et le niveau augmente aussi dans l'équipe. On arrive à créer beaucoup plus de liens, donc ça reste quand même intéressant. Et je crois en nous pour mettre des écarts pour la phase retour. On a beaucoup plus de stabilité à force de jouer ensemble. Et au final, on retient vraiment que le positif et on continue à travailler tous les jours pour réussir fin de saison à faire quelque chose. Quoi.
Est-ce qu'on peut revenir justement sur tout ce que tu as vécu dernièrement, le fait d'aller avec l'équipe de France?
C'est quelque chose, j'ai envie de dire, c'était dans mes objectifs, c'était on va dire dans mes ambitions, quelque chose, on va dire un rêve qui s'est réalisé. Et honnêtement, c'est quelque chose que j'ai adoré découvrir. Ça m'a permis aussi de prendre de l'expérience, me rendre compte que j'ai beaucoup à travailler avant d'arriver aussi à un niveau comme ça. Et puis d'avoir marqué un but, du coup, c'était contre Ada, contre la Pologne. Donc en plus, contre une copine qui joue contre moi. Mais franchement, ça me remplit de joie. Et puis, maintenant, j'espère revenir.
Et du coup, elle est bien de retour là, surtout sur ce match. Alors, autre match, autre scénario, puisque dimanche, elle jouait à Lubin en Pologne.
European League.
Exactement.
Match numéro 2.
Exactement, après la défaite inaugurale contre Bitigam.
Elles sont bien relevées.
Exactement. Nantes qui aura mené de 6 buts à la 20e, 11 à 5.
Reste 12 à la mi-temps pour les Nantais.
Oui. Et après, aura beaucoup souffert et aura eu besoin de ses jeunes talents pour l'emporter, puisque Lubin a une balle pour passer à plus 2 à 2 minutes de la fin. Et notre bonne gardienne Floriane André, qui fait encore une fois une intervention sur un jet de 7 mètres. Dans la foulée, c'est Clara Vaxès, la jeune ailière, qui égalise. Et c'est Marie Finstad-Bergum qui, à 2 secondes de la fin d'un tir surpuissant.
Comme on dit, Jean-Marc.
Exactement. Mais magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu le tir. Je vous conseille de le regarder.
Non, on regardera. Tire à la hanche.
Tire à la hanche. Elle est à 10 mètres à peu près. Et superbe tir qui monte. Résultat, très belle victoire, 27-26.
Ouais, un groupe toujours dominé par Bitty Game avec 4 points. Hein, et sur l'agenda, donc, les
alors,
Neptunes,
c'est ce que j'ai
dimanche.
D'abord, au programme, il y a un déplacement à Chambray, en Touraine. Ça sera mercredi. Chambray, qui lui a été battu par Viborg en EHF. Et puis, dimanche, à 16h, c'est la réception du troisième adversaire européen. On y
les
sera,
Roumains
d'ailleurs.
De Baia Mare.
Exactement, les Roumains de Baia Mare. Et on aura fait le tour de la poule et on pourra se jauger. Et c'est un retour à Mangin aussi.
C'est noté.
Juste un petit mot sur les recrues, parce qu'on a pas mal de choses. Donc, on a vu l'arrivée.
Un pivot qui arrive. Hein.
Voilà, alors, on a vu l'arrivée de Mike Crabball, qui, elle, est demi-centre et qui est arrivée cet hiver pour remplacer Amandine Tissier. Elle a 24 ans, les Danoises. il y a l'arrivée d'Anna Lagerqvist, ça sera la saison prochaine, pivot suédoise de 28 ans en provenance de Rostov. Et puis on a appris aussi l'arrivée de l'ailière gauche de 29 ans, Marine Dupuis, qui en ce moment joue à Toulon et qui était formée à Besançon. Une joueuse, toi qui te plaignais des contre-attaques, elle est ultra rapide et très rapide en contre-attaque, Marine Dupuis.
Eh ben, une équipe qui continue à être une équipe scandinave hein, pour les Neptunes. Volley, allez, on enchaîne avec le NRMV qui s'incline à Cannes.
Alors oui, alors c'est des séries de deux matchs, hein, puisque mardi, Nantes avait battu Paris 3-2 en remportant le deuxième set, le quatrième et le cinquième. Et puis dimanche, cette fois, ils se sont inclinés au Palais des Victoires à Cannes 3-7-2. Malgré avoir gagné le premier set et le quatrième set, et ils s'inclinent 18-16 dans le cinquième set, encore un match serré. Et du coup, au classement, ils sont dixième et ils reçoivent samedi prochain Poitiers à Dugas.
Ça va mieux pour les filles.
Exactement, le VBN qui a pris sa revanche sur Paris Saint-Cloud, qui les avait battus en début de saison à domicile, l'a emporté 3-0 à Paris, 25-21, 25-18 et 25-16. Donc tout va bien avec la belle performance de Rebecca Lazic, la Suédoise, 16 points, et de Sandra Gomis, 12 points.
VBN, troisième de Liga.
Et qui reçoit...
Qui s'installe fortement dans le haut de tableau.
Oui, et qui reçoit Béziers samedi prochain, on y sera aussi.
Il y a un mot de basket avec les hommes, c'est de la Pro B.
Exactement, donc ils jouaient mercredi à Aix-Maurienne, ils ont perdu 76-72. Ils jouaient vendredi à Saint-Chamond, ils ont perdu 91-74. Au classement, ils sont 12e avec 6 victoires, 8 défaites. Et pour les filles, ça ne va pas, qui s'étaient reprises en battant Mondeville, le leader. Là, elles sont passées au travers, elles ont été battues par, par le Centre fédéral, pardon, 46-54.
Allez, les féminines du FC Nantes.
Exactement, qui se déplaçaient à Saint-Maur. Victoire 1-0, but de Pilar Coury. Du coup, au classement, le FC Nantes est deuxième avec 24 points. Un point derrière le FC Metz. Et vont recevoir, ça sera dimanche 14h30 à Marcel Sopin, Strasbourg, qui est sixième du classement. Avant de se déplacer à Soyaux la semaine d'après pour les huitièmes de finale de Coupe de France.
Très bien. Maëlan, on parle du reste de l'actualité sportive. C'est multizone.
Money time. Multizone. Tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Allez, il va falloir être succinct parce qu'il y a plein de choses à dire et on démarre avec le Dakar, Fab.
Oui, avec Victor Detaillat.
Troisième pour lui, hein, sur le rallye.
Ouais, troisième déjà. Et puis,
deuxième de rang en Arabie Saoudite.
Ouais, une bonne deuxième place pour Sébastien Loeb.
Qui, bonne ou pas bonne
c'est les deux premières étapes.
Il avait d'autres ambitions peut-être, non? Depuis le temps.
Ben ouais, il va pas nous faire le poulie d'or tous les ans, quoi. Mais ouais, je pense que...
Je pense que pour l'année prochaine, ça pourrait être la bonne pour lui hein, dans son écurie Pro Drive.
Il y a eu une étape voilà, où il a eu un problème et puis ça a été compliqué pour lui, mais il aurait été là autrement.
Il est qu'à 27 minutes, c'est pas si loin que ça. Donc, ça ne joue pas grand-chose sur un Dakar. Donc,
c'est pas un Dakar très passionnant quand même.
Non.
Al-Raji, hein, le régional de l'étape, le saoudien, qui complète le podium à la troisième place. Allez, on parle de tennis, Charles. C'est le début des internationaux d'Australie. On ne revient pas sur l'affaire Joko, mais non. On parle de résultats.
Exactement, on va parler un petit peu des Français, les 5 Français qui étaient engagés, dont une confrontation franco-française. La première nous intéressait, c'était Gaël Monfils qui faisait son entrée, hein, lui, le premier Français, le meilleur Français, tête de série numéro 17, qui était dans la partie de tableau, la moitié de tableau de Joko, donc qui forcément libère un petit peu une espace pour lui. Il affrontait Coria, l'Argentin, 6-1-6-3. 6-1, 6-1, 6-3, une victoire aisée pour lui. Il affrontera Bublik, le Kazakh, au prochain tour, ça devrait le faire aussi. Donc la rencontre franco-française, c'était entre Corentin Moutet et Lucas Pouille. Lucas Pouille qui bénéficiait d'une wildcard. Malgré une bonne entame de Pouille qui gagne le premier set 6-3, Corentin Moutet a su s'imposer par la suite sur les trois prochains sets. À la fin, ça faisait 3-6, 6-3, 6-4, 6-3. Il affronta la pépite du tennis américain, Sébastien Corda. Après, c'était Adrian Manarino dans un palpitant match face à Duck Worth, le local de cette Open d'Australie. Un match très serré qui s'est déroulé en 5-7. Une victoire 6-4, 2-6, 3-6, 6-2, 6-1. Il affrontera au prochain tour Urkas, le Polonais. Ça sera plus compliqué. Le Polonais qui est quand même tête de série numéro 10. Manarino qui, lui, est beaucoup plus loin qui a chuté ces dernières années. Ça va être plus compliqué pour lui.
En l'absence de Djoko, vous voyez qui s'imposer, les gars?
Et sinon, juste comme ça, vous connaissez le nouveau surnom de Djoko?
Djokovic.
Novak Djokovic.
Novak Djokovic. Il n'y a pas Bonzi qui joue aujourd'hui aussi?
Si, Benjamin Bonzi, c'est qui jouait face à Gojovic, l'Allemand. Il gagne 6-3, 6-3, 6-3. Il affrontera Kachanov. Aussi un match compliqué
qui est en train de revenir, dit moi à 25 ans. Il revient bien parce que ouais, c'est quand même le mec qui avait sorti Medvedev au premier tour à Roland-Garros en 2018. Et depuis, plus rien, quoi.
Ouais.
Et c'est quand même.
Voyez qui pour succéder à Djoko?
Moi je vois bien Rafael Nadal. Je dis ça parce que je suis fan de lui, mais c'est de toute façon ça va jouer entre Zverev, Medvedev.
Pas plutôt un joueur de dur.
Moi je vois bien Daniil Medvedev.
Medvedev.
Il vient de remporter l'US Open, je pense que c'est pour lui.
Allez, on mettra tout sur le gars qui veut pas regarder son tableau.
Allez, un mot de cyclo-cross. Avant dernière étape de Coupe du Monde, à 3 semaines des Mondiaux. Victoire pour le Belge Iserbit.
Exactement, la deuxième étape française de cette Coupe du Monde de cyclo-cross était à Flamanville. Le général était déjà joué, Iserbit avait déjà gagné. Et ça lui fait une nouvelle victoire pour lui cette saison. Il s'impose devant Thunarts et Michael Van Terenhout.
Est-ce qu'il avait un vélo électrique?
Ça, on ne le saura sans doute jamais.
Allez, on va traverser l'Atlantique. Un point, Jean-Marc, sur la NFL.
Exactement, le foot US, puisqu'on a attaqué le dernier mois de compétition et que le 13 février, ça sera le Super Bowl. Et puis, du coup, pour débuter ce dernier mois, c'était les wildcards. Alors, ça se croise un peu dans tous les sens. En clair, je vous explique. Le meilleur de chaque conférence est qualifié directement pour le Divisional Round. C'est le week-end prochain. Autrement dit, les Titans du Tennessee et les Packers de Green Bay. Et en attendant, il y avait les wildcards et une équipe qui n'était pas... Alors, le wildcard que je vais vous parler, c'est entre les Cincinnati Bengals, équipe de l'Ohio, qui est la surprise cette année, comme l'était son confrère de l'Ohio, les Browns de Cleveland l'année dernière, et qui n'avait pas gagné un match de play-off depuis 31 ans, rendez-vous compte.
Ça fait un moment.
Et là, miracle est arrivé. Les hommes de Joe Burrow, leur quarterback, ont fait une super prestation. Et à la dernière seconde, c'est le linebacker Pratt qui, devant sa end zone, va voler le ballon sur la tentative de Derek Carr pour les Raiders à 12 petites secondes de la fin, qui fait que les Bengals l'emportent 26-19. Donc, ils sont qualifiés, tout comme les Bills qui ont explosé les Patriots 47-17. Les Chiefs, c'est 42-21 face aux Steelers. Donc, je vous ai dit que dans cette AFC, les Titans du Tennessee étaient qualifiés. Dans la NFC Conférence, les 49ers ont fini troisième de leur pool.
Meilleur troisième qualifié.
Voilà, c'est très rare que ça arrive.
C'est très rare. Hein,
parce que du coup, ça a éjecté des qualifs les Vikings, qui eux avaient fini deuxième. Qui l'ont emporté 23-17 chez Dallas.
Dallas Cowboys, qui faisait pourtant partie des outsiders.
Des équipes cotées, ouais.
Et qui avaient fini en tête de leur poule.
Et du côté de Tampa Bay, l'équipe de Tom Brady, aucune surprise, a battu les Eagles 31-15.
Dernier match.
Et voilà.
Demain matin pour nous.
À 2h, au SoFi Stadium, où aura lieu la finale entre les Rams et les Cardinals d'Arizona, donc les Los Angeles Rams.
Qui affrontera les Buccaneers.
Et c'est ce que... Alors attends, je vais vous donner du coup les Divisional Round, donc les demi-finales de conférence. Les Titans contre les Bengals et les Bills contre les Chiefs en AFC. Et en AFC, du coup, ça sera les Packers de Green Bay qui reçoivent les 49ers. Et du coup, le dernier match, ça sera les Buccaneers de Tampa Bay contre le vainqueur, du coup, entre les Los Angeles Rams et les Arizona Cardinals.
À suivre sur la TNT, bien sûr, le Foot US pour la première année, hein, je crois.
Troisième
année. un mot de golf, Charles. C'est PGA Tour qui continue.
Exactement, et on a une victoire d'un Japonais hier. On était toujours à Hawaï, c'était le Sony Open in Hawaï, à la doublette avec celle de Cameron Smith qu'il avait gagnée la semaine dernière. C'est Matsuyama qui s'impose avec moins 23, donc finalement, une sorte de prolongation face à Henley, l'Américain. Deux belles dernières journées pour le Japonais qui, du coup, une nouvelle victoire pour lui.
Ouais, il est en tête de la FedEx Cup grâce à cette victoire, le Japonais Paul Barjon, 48e, hein, qui disputait son 6e tournoi sur le circuit américain. Actuellement 170e, c'est pas encore assez, hein, s'il veut disputer les playoffs de la FedEx Cup. Voilà mon polo, il faut bosser. Hein.
Ah, mais c'est compliqué pour les Français. C'est pas simple, hein, sinon...
Brésil mini-golf. Hein.
Ouais.
Non, je suis sévère, je le suis et j'aime beaucoup.
Écoutez-les, les golfeurs du dimanche. Allez,
avant de passer
aux professionnels.
Jean-Marc, je suis assez d'accord avec toi.
Avant de passer
quand nous, on finit à plus 9, on se dit,
oh,
quel résultat.
Et eux, ils doivent finir à moins pour essayer d'espérer quelque chose.
Allez, avant les quiz, vite fait, des résultats de rugby, c'est la Champions Cup.
C'est ça, on était un week-end de Coupe d'Europe, oui. Et le carton, c'est le Leinster qui a complètement
atomisé Montpellier.
Ouais, 89-7, 13 essais. Il n'y a rien à dire, on va éviter d'en parler. La belle victoire, ce sont pour l'Union Bordeaux-Bègles qui s'impose face à Scarlett, 45-10. La victoire aussi de Clermont face à Sale, 25-19. La défaite, ce sont sans Antoine Dupont des Toulousains qui affrontaient qui étaient aux Wasps.
C'est dur à dire. Il faut prononcer les deux S, les gars.
Exactement. Wasps. Les Wasps.
Bien, Mathieu.
Et 30-22.
Les Guêpes.
L'autre club français, c'était dans la même poule, c'est le Stade français qui allait perdre à Bristol 28-17. Le Racing qui s'imposait 25-10 chez les Ospreys. Et La Rochelle qui a battu Bath 39-21.
Ouais, et dans cette Coupe d'Europe, ça sent bon pour le Racing, La Rochelle et Bordeaux-Bègles. Hein. Pour les autres, ça va être compliqué.
Ouais, il reste encore que des matchs, hein, évidemment. On est qu'au
pas
début.
Beaucoup,
mais, hein.
Et puis, je ne sais pas si les matchs qui ont été annulés cause Covid, ils vont être rejoués. Donc, Toulouse, par exemple, ne marque qu'un point avec ses 0-0 qui sont attribués.
Ouais, après, il y a pas mal de...
Enfin, ça sera à suivre la semaine prochaine. On en saura plus. Voilà, Maëlan, on arrive au bout. C'est le quiz. C'est l'heure de jouer.
Money time. Chaque semaine, on se divertit. Chaque semaine, on se quiz. Money
time. Alors, mes amis, on va couper ses portables, on va couper ses tablettes.
On écoute le patron. Je coupe.
On va faire un petit quiz. On a parlé de la CAN tout à l'heure sur les surnoms des équipes qui participent.
Oh,
à la
CAN.
On s'est entraîné. On s'est entraîné.
Alors j'ai
J'espère
fait.
Pas Jean-Marc. Hein.
J'ai peur là.
Charles, non, Jean-Marc et Mathieu.
J'ai entraîné Charles.
Allez, on essaye.
Qui sont les super aigles?
Nigeria.
Exactement.
Qui a dit en premier? Mathieu.
Non mais il faut dire les super
Charles.
Aigles.
Charles.
C'est Mathieu.
On est d'accord.
C'est Mathieu. Un point pour Mathieu. Qui sont les étalons?
Le Burkina Faso.
Bien, Jean-Marc.
Je l'ai appris.
Mais oui, je sais bien.
La plus simple, les Lions indomptables.
Le Cameroun.
C'est là, Mathieu.
Oui, je crois. Hein.
Moi, je dirais Jean-Marc.
Les Diables Rouges.
Les Belges.
Et non.
La Tunisie.
Non.
Alors,
non.
T'es pas loin. T'as dit les Belges.
Le Congo belge.
Donc le
Zaïre,
donc le
Congo, RRD
Congo. Le Congo.
Le Congo tout court.
Allez, je te l'accorde.
Ah non, le Congo, pardon.
Ben oui, comme c'était le Congo. Là, j'ai exactement le même surnom que les Diables Rouges.
Ah non.
Que les Belges.
Le Congo, c'est pas l'ancien Congo belge.
Non.
C'est l'inverse.
Mais c'est pour ça qu'ils ont gardé
le Congo. Le Congo. Allez, la suite.
Les éléphants.
La Côte d'Ivoire.
C'est pour moi, ça.
Allez,
c'est pour
ça. Je le laisse.
C'est pour moi.
Facile, les pharaons.
L'Égypte.
Tellement facile.
Collégial, là, pour le coup.
Collégial.
Allez.
Un pour chacun.
Les léopards.
Donc le Zaïre, donc la RD Congo.
C'est ça.
Exactement. Facile, les Fenech.
Maroc.
Non, l'Algérie.
Ah, oh là là, qu'est-ce que c'est
marrant. Oh, la boulette.
La boulette, aïe aïe aïe.
Plus compliqué.
Pas la boulette d'agneau.
Les requins bleus.
Cap vert.
Oh merde, j'ai croyé
ça compliqué celle-là. Ça sent la religion, ça. Hein.
Ouais. Non, mais en fait, on s'est entraîné.
Ouais, ouais, je vois ça. Les scorpions.
Alors, les scorpions, je l'ai vu. Non.
Et tu as
Ah, mais non. Je l'ai vu, ça m'a interpellé.
Tchad.
Sierra Leone.
Non.
La Gambie.
Exactement, Jean-Marc.
Les scorpions de la
Jean-Marc
Gambie.
Jean-Marc Caracol en tête. Hein.
Non, la Gambie qui est en forme.
Il triche, c'est pas possible.
Ah, non. Les lions de l'Atlas.
Le Maroc.
Maroc.
Je crois que c'est pour moi. Là.
Oui, c'est pour toi aussi. Plus compliqué. Les crocos du Nil.
Le Soudan.
Soudan.
Éthiopie.
Non, t'as dit quoi?
Soudan. Le Soudan.
Ouais.
Oui, c'était
chaque fois que je dis que c'est compliqué, c'est la première réponse qui arrive.
Ouais. Allez.
Les étoiles du pays.
Oh là.
Alors là.
Zambie.
L'Érythrée.
Non.
Zimbabwe.
Plus bas.
Éthiopie.
Ah, Angola.
Plus bas.
Le Zimbabwe.
Plus bas.
Namibie.
Côte Est.
Mozambique.
Tanzanie. Mauritanie.
Encore un petit peu.
Tanzanie. Je crois que ça y est. Hein.
Les aigles du Carthage.
La Tunisie. Je crois que c'est bon, mais Hélène nous faisait...
Et les guerriers?
C'est moi.
Les guerriers de la Libye?
Non, Zimbabwe.
Ah d'accord.
Bon, okay. Victoire...
Victoire de Jean-Marc 10-3-2. Pour ce quiz qu'il avait bien révisé. Hein, les requins bleus, on s'en rappellera. Les requins bleus du Cap-Vert. Voilà, il est 20h, on va laisser la place à Passage en Force pour parler NBA. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao à tous.
Ciao.